ce que Louis II. Alors on va lire d'abord dans Hébreux 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu, ce que nous avons chanté ce matin. Et l'autre verset que vous connaissez bien pour ceux qui sont au ministère d'Élie, mais sinon d'Élie, c'est dans Malachie. Alors moi j'ai le chapitre 3, verset 23, mais vous avez certainement le chapitre 4, verset 5, puisqu'ils ont remodifié la désignation des chapitres. Alors Malachie 3, 23 pour moi. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous avons que concrètement cette prophétie s'est réalisée dans Jean-Baptiste, qui a préparé la venue du Messie, qui a préparé la venue de Jésus et de son œuvre à la croix. Mais cet esprit d'Élie, qui est l'Élie de l'Ancien Testament, est encore aujourd'hui à l'œuvre et qui réconcilie. Et c'est le principe et le fondement du ministère de la Maison d'Élie, de prière de la Maison d'Élie que nous suivons. Et c'est aussi en relation avec ce que je vais dire ce matin sur cette nuée de témoins, parce que nous devons être réconciliés avec ceux qui nous ont précédés pour tenir compte de leur expérience qu'ils nous transmettent. Il faut garder les bonnes expériences et rejeter les mauvaises. Donc il y a un discernement à avoir parce que le contexte du passé n'est pas le même qu'aujourd'hui. On n'a pas la même civilisation aujourd'hui, mais les principes sont les mêmes. Et donc, pour éviter de reconduire l'histoire, eh bien, nous pouvons tenir compte de ce qu'ils ont vécu auparavant. Et c'est aussi le rôle du chapitre 11 des Hébreux, puisque le chapitre 12 est précédé du chapitre 11. Et tout ce chapitre-là, qui est quand même assez long, puisqu'il a 40 versets, parle de la nuée de témoins qui ont précédé les apôtres, qui ont précédé l'Église primitive. Donc vous avez, ça remonte à la foi d'Abel. Abel, vous savez, Abel, Caïn, etc. Et ensuite après, il les énumère, hein, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, etc. Et puis, il en cite d'autres. Donc, vous voyez, c'est biblique. Et c'est enraciné dans la foi. Et cette foi a continuer dans d'autres jusqu'à nos jours. Là, il y a une frise que j'aime bien qui retrace en fait la réforme protestante. Mais il n'y a pas que la réforme protestante, il y a aussi la réforme catholique, puisque l'ensemble des réformes sont là. Parce qu'après la réforme protestante, qui étaient des catholiques qui ne voulaient pas quitter l'Église catholique, mais qui l'ont été par des choix voilà, du Vatican, qui n'ont pas accepté. Mais ensuite, après, il y a eu la contre-réforme, qui a aussi été une réforme de l'Église catholique, qui en avait besoin. On a tout le temps besoin de se réformer. C'est le principe de la réforme, semper reformanda, c'est du latin, qui veut dire se réformer perpétuellement, continuellement, parce que nous avons une tendance naturelle à nous scléroser, hein, pas uniquement sur le plan physique, mais sur le plan psychologique et spirituel. Et donc, il y a un an, j'avais été frappé par John Wesley dans la biographie, qu'on connaît mal en France, le méthodisme, qui est représenté un peu en Alsace par quelques églises, mais en France, il y a très peu. C'est quelque chose qui n'est pas de notre culture, mais j'ai beaucoup aimé la vie de John Wesley et en fait ce qu'il a apporté au mouvement évangélique, puisque c'est le début du mouvement évangélique. Là c'est le mouvement protestant, là c'est le mouvement piétiste et là c'est le mouvement évangélique qui commence. Cette année, Je me suis un petit peu plus intéressé au XVIIe siècle, qui commence en 1600 et qui se termine en 1700. Le XVIIe siècle, qui est habituellement le siècle des lumières de la raison, hein, pour le monde, puisque même vous avez certainement participé, je ne sais pas ce que vous avez voté au référendum sur la Constitution de l'Europe, mais la Constitution de l'Europe qui nous était proposée en tant que Français, chercher à retracer dans le préambule, vous savez, il y a toujours des préambules dans les constitutions, et malheureusement, ce qui avait été proposé, c'est de ne pas rappeler le passé chrétien de l'Occident, ce qui était un peu très grossier, qui a été refusé par la majorité des peuples, y compris les Français. Et tout pour eux dans la Constitution comme si c'était l'origine de notre pays, de France et de l'Europe, ce qui est tout à fait aberrant historiquement. Donc le XVIIe siècle, qui fait aussi partie de cette nuée de témoins. Et en même temps, je voulais, pour ceux qui sont encore en vacances ou qui le sont, comme moi, pour lire des bons bouquins, je voulais vous recommander quelques bouquins ou quelques lectures qui peuvent vous édifier et qui peuvent vous aider, en particulier pour les membres de l'Église. Donc il y a un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Mysticisme d'hier et d'aujourd'hui » de Rose-Marie et Jean-Marc Berthoud-Monod, qui donne un peu une analyse des courants modernes de chrétiens dans lesquels nous sommes, qui est une très bonne analyse. Ça s'appelle « Mysticisme d'hier et d'aujourd'hui ». Les auteurs sont Rose-Marie et Jean-Marc Berthoud-Monod, c'est les fameux Monod protestants. C'est l'éditeur L'Âge d'Homme à Lausanne, CH 1000 Lausanne. Pour ceux qui s'intéressent, pas forcément tout le monde, je pourrais donner la référence exacte à nouveau à la fin du culte. Ce livre traite du XVIIe siècle, entre autres. Vous savez, la réforme protestante a cherché à réformer l'Église, qui était très très mal en point à ce moment-là, à la sortie du Moyen-Âge. La Renaissance ici a complètement changé les choses. On a découvert les pays lointains, ça, Christophe Colomb précédemment, il a fait ses découvertes, etc. Donc ce qu'on appelle la vision du monde, la manière de voir le monde a changé. Hein. On pensait d'ailleurs au départ que la Terre était plate, hein. Maintenant on rigole, mais voilà, pendant des milliers d'années, on pensait que la Terre était un disque plat, et qu'au bout on tombait, on ne savait pas du tout que la Terre était un globe, voilà. Mais bon, on sourit, mais je vous dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et nous-mêmes, qui sommes ce que j'appelle naïfs. La naïveté, c'est de croire quelque chose, et quand on cherche à découvrir, on sait pour ça que c'est autre chose qu'on a pensé. Et donc, il faut sortir régulièrement de nos naïvetés pour aller vers la réalité. Et justement, la science est là aussi pour nous aider à être dans la réalité, à condition que c'est une science qui soit, selon les canons scientifiques, observation, description, hypothèse et vérification. Tu veux dire quelque chose ? Oui, bien sûr. Oui. Oui, mais alors comme je vous le disais, on sourit, mais comme moi je parle de trialectique, aujourd'hui je suis sûr que 95% dans la salle, vous êtes dans la dialectique. Et donc on sourit, en fait on fait la même chose. Donc faisons attention de ne pas critiquer avant, parce qu'on fait la même chose. La dialectique, vous savez, c'est de dire lui il est noir, lui il est blanc, les blancs sont bons, les noirs sont mauvais, vous voyez, c'est de catégoriser les choses. Hein. Et c'est ça qui pose problème, qui fait les divisions. Alors bien sûr, on s'en défend, mais quand on est dans cette vision du monde, on est obligé de raisonner comme ça. Et du coup, ça fait des problèmes. La trialectique, c'est de prendre la complexité des choses. Hein, il y a des noirs, des blancs, des rouges, des jaunes, des machins, etc. Et tous sont des humains. Et tous doivent vivre ensemble. Et tous, vous voyez. Et donc, quand on raisonne de manière globale, eh bien, on n'est plus dans la dialectique. Alors la dialectique nous est donnée par Aristote. C'est Platon et Aristote, et qui ont vécu pendant les 450 ans où Dieu s'est arrêté de parler. Malachie, moins 450, et Jésus, zéro. Et pendant ce temps-là, Dieu n'a plus parlé. Dans la Bible, il n'y a plus aucun prophète qui ne s'est levé. Prophète, ça veut dire parler de la part de Dieu. Prophète. Et quand il y a silence de Dieu, les hommes parlent, mais avec leur sagesse. Et donc, c'est la sagesse des philosophes, ceux qui aiment la sagesse. Et donc, ces philosophes ont établi d'autres canons, d'autres autorités, qui ont fait autorité, y compris chez les chrétiens, puisque Augustin a pris Platon, et puis ensuite Thomas d'Aquin, qui est le somme théologique au XIIe siècle, XIIIe siècle, pardon, 1200 et quelques, XIIIe siècle, c'est aujourd'hui encore le fondement de toute la théologie catholique romaine. Voilà, aujourd'hui encore. Et c'est pas moi qui le dis, puisque c'est Michel Fromager, c'est un autre livre que je vous recommande, qui s'appelle, La drachme perdue. La drachme perdue. C'est-à-dire, on a perdu la drachme. Et la drachme, c'est la trialectique, en fait. Voilà. Drachme perdue, Michel Fromager. C'est un catholique qui, justement, explique à quel point tout le catéchisme catholique est basé sur les dialectiques. Donc, ne nous réjouissons pas trop de ce qui s'est passé avec Galilée ou avec machin, etc. On recommence la même chose. Donc, Aristote a marqué les esprits parce qu'Aristote était un logicien. Logicien, il disait, lui c'est Ruben, et elle c'est Colette. Et Colette c'est pas Ruben. Vous êtes tous d'accord, c'est évident. Bon, ça veut dire, c'est une grande découverte. Voilà, c'est ça. Sauf que Ruben et Colette, ils ne s'excluent pas. Ils doivent se compléter. Voyez. Et ça, c'est la trialectique. Ça paraît évident. C'est-à-dire prendre en compte la complexité des choses. C'est pas dire, lui, on exclut. Ça s'appelle le tiers inclus ou le tiers exclu. La dialectique exclut les tiers, alors que la trialectique inclut les tiers. Donc ça prend en compte la complexité du monde. Et on sort de la naïveté pour entrer dans une réalité, pour comprendre les choses telles que Dieu les comprend. Et les pères de l'Église, donc la nuée de témoins qui nous a précédés, de zéro jusqu'au 5e siècle, pardon, à chaque fois les siècles, c'est 495, 5e siècle, les pères de l'Église, dont fait partie Irénée de Lyon, c'est un des grands pères de l'Église qui était à Lyon, Irénée de Lyon, eh bien, ils ont établi le dogme de la Trinité. Et c'est quoi le dogme de la Trinité? Parce que Jésus, il a fait connaître le Père. Le Père n'était pas connu dans l'Ancien Testament. On parlait du Père, on parlait de Dieu, Yahvé. Je suis celui qui suis. Donc c'était assez impersonnel, c'est le Dieu qui est un. Mais la notion de Père, c'est Jésus qui l'a révélé. Parce qu'il avait une relation avec le Père, parce qu'il était missionné, mandaté par le Père, il était envoyé par le Père pour sauver l'humanité. Donc le plan de rédemption nous a révélé la Trinité. Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu s'incarner sur la terre, prendre notre condition, mourir sur la croix pour nos péchés. Si le mot péché, on l'exclut, parce qu'aujourd'hui, ça gêne tout le monde de parler péché, en dehors des chrétiens, eh bien, on ne comprend plus, il n'y a plus de sens à ce que Jésus a fait. Jésus est venu pour le péché, pour régler la question du péché. Mais il avait besoin du Saint-Esprit pour ressusciter. Il ne pouvait pas se ressusciter tout seul. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est venu le troisième jour le ressusciter d'entre les morts. Donc vous voyez, chaque personne de la Trinité collabore dans une même optique d'un plan de rédemption. Ben, c'est la trialectique. C'est aussi simple que ça. Et quand on raisonne et quand on agit, comme Dieu agit au sein de la Trinité, ben, on n'est plus dans la dialectique, on est dans la trialectique. J'espère que je ne vous heurte pas avec les mots, mais vous savez, vous avez des mots encore plus compliqués, anticonstitutionnellement, que vous utilisez, bon... Je ne dis pas la complexité. Donc il vaut mieux savoir ce que la Bible nous enseigne. Et la Bible nous enseigne de raisonner comme Dieu raisonne. Est-ce qu'il y en a qui veulent raisonner comme Dieu raisonne? Au sein de ces trois personnes. Ben voilà. Donc c'est évident. Mais encore l'évidence, faut-il savoir où elle est et l'utiliser. Et donc, la réforme protestante, donc 16e siècle, a refondé la foi. Qui n'est pas basé sur les œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres, par l'argent qu'on donne à l'Église, les indulgences qui nous sauvent des péchés. Ils ont même catégorisé la façon Donc ils ont dû inventer, ils ont inventé le purgatoire, hein, qui n'existe pas dans la Bible, pour établir ce dogme des indulgences, de manière à ce qu'on vous dise, bah, si vous donnez tant d'argent, vous récupérez tant d'années en moins dans le purgatoire, etc. Vous voyez, c'est un montage de dupes, hein, mais qui a marché, jusqu'au moment où Luther, qui était un moine augustin, est allé à Rome et il était scandalisé de voir les pauvres être obligés de débourser cet argent pour construire ce palais extraordinaire que nous avons encore aujourd'hui, le Vatican. Et quand il a lu les Romains, donc en revenant aux Écritures, il faut toujours revenir aux Écritures, quand il a relu les Écritures, il était frappé que la Bible dit « Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, la foi seule ». Et ça, c'est le fondement. Aujourd'hui, ici même présent, un ami qui était prêtre sur Bergenville, Michel Lacour, il a prêché ici exactement ce message-là quand on l'a invité un mercredi soir, ceux qui étaient là. C'était extraordinaire. Pendant une heure, il a prêché sur le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc vous voyez, le fondement du christianisme, il est le même. Catholique, orthodoxe, évangélique, peu importe. Par contre, après, quand on est dans la dialectique, comme je vous le disais, on est obligé de dévier. On est obligé de dévier. On ne peut pas faire autrement, c'est la logique qui mène à ça. Et c'est quoi cette déviation? La déviation, c'est qu'au XVIe siècle, la Réforme institue le salut par la foi en Jésus-Christ, qui est mort il y a 2000 ans à la croix pour nos péchés. C'est un salut qui est extérieur à nous, d'accord? Jésus-Christ, c'est une personne qui a vécu il y a 2000 ans. C'est une personne historique qui est venue, qui est mort, qui est ressuscité. Et c'est ce salut que nous prêchons. Qu'ont prêché les apôtres, qu'ont prêché Paul, qu'ont prêché tous et qu'on continue à prêcher. Okay. Donc c'est un salut qui, à l'extérieur de nous, quand on y adhère, par la foi, on est sauvé. Ça va? C'est pas trop compliqué? Donc ça, c'est une réalité. Le problème, c'est qu'il y a une deuxième réalité. Et si on est dans la dialectique, ça s'oppose. C'est qu'il y a une réalité intérieure. La Bible, dans beaucoup d'endroits, nous dit que Jésus-Christ, quand tu as accepté Jésus-Christ, il vit à l'intérieur de toi. Et il produit en toi le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu. Donc ça veut dire que Jésus est à l'extérieur et à l'intérieur. Gros problème. Quand vous êtes dans la dialectique, vous ne pouvez pas accepter les deux. Vous rejetez mutuellement. C'est ça le problème. Vous voyez, notre raisonnement n'arrive pas à capter que Jésus peut être à l'extérieur et à l'intérieur. Ça va? Donc là, j'explique la dialectique dans les choses pratiques qui ont concerné toute la nuée de témoins qui nous ont précédés. Alors, il y a des grands mots, hein, je vous l'ai dit, mais vous n'êtes pas obligé de les noter. Ça s'appelle la grâce infuse. Et la grâce donc intrinsèque et extrinsèque. Donc toute la théologie catholique est basée sur la grâce infuse, donc qui vient de l'intérieur. Okay. Alors que les protestants ont établi la grâce extrinsèque, extérieure, donc la Bible, la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est mort à la croix. Et on applique ça de manière que la formule soit exacte. Mais quand, vous voyez, et ça c'est les évangéliques libres, les évangéliques, je dirais, classiques, qui insistent là-dessus parce que c'est vraiment le message de Luther, le message de Calvin, qui insiste sur le fait que Jésus-Christ est venu, ce qui est une réalité, il y a 2000 ans, mais que c'est tellement vrai que ça devient un dogme, ça devient une doctrine, ça devient un dogmatisme christologique. Ce qu'on appelle la christologie, c'est la science de Christ. Et le XVIIe siècle a rejeté, enfin a rejeté, non, pas qu'il a rejeté, l'histoire fait que tout ce siècle-là, les réformateurs ont rétabli une vérité. Le problème de cette vérité, c'est que si elle n'est pas vécue avec Christ en soi, eh bien elle devient ennuyeuse. Parce qu'il y a surtout les gens intellectuels, enfin les gens qui pensent, qui sont satisfaits et qui peuvent mettre les choses en pratique parce que voilà, ils disent Jésus-Christ est mort pour moi, etc. La Bible dit, etc. Mais il y en a d'autres qui veulent sentir Jésus en soi, qui veulent ressentir les choses, qui veulent vivre aussi dans leur intimité personnelle le Seigneur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je suis sûr que parmi vous, vous êtes tous comme ça. Bon, ça, on appelle ça le courant mystique. Mystique au sens de quelqu'un qui expérimente quelque chose. Le problème, c'est que, étant donné que les luthériens, les calvinistes, ont tellement insisté sur le Christ extérieur en vous, et la Bible dit, etc., qu'ils ont négligé le peuple dans son ensemble, dans le besoin aussi de vivre Jésus à l'intérieur de soi. Et donc, il y a eu des pasteurs, alors, il y a un pasteur à Aubernais, Spener, qui était luthérien, qui a vu son église, c'était une catastrophe. Il n'y avait personne dans l'église. Les gens ne lisaient plus la Bible. 100 ans après la venue de Luther, on ne lisait plus la Bible. Les protestants ne lisaient plus la Bible. Ah, parce que c'était sec, c'était froid, c'était une formule. Il a dit, c'est pas possible, quoi. Si on veut vivre l'évangile, il faut qu'il y ait de la vie dans l'église. Et donc, il a décidé de faire des petits groupes d'études bibliques. Donc, dans la ville, il a fait des groupes d'études bibliques, et c'est paroissien. Ils ont prié, chose étonnante, parce que c'est le pasteur qui prie chez les luthériens. C'est pas les... Vous n'avez pas le droit de prier dans l'église. Et tout était orchestré de manière hiérarchique. Donc, ils avaient fait prier, ils avaient étudié la Bible, ils ont commencé à louer le Seigneur. Donc, il y a des chants, voilà, en dehors des chants de Bach, qui sont très jolis, hein, qui sont chantés dans l'église, mais vous voyez, des chants plutôt, voilà, qui expriment des choses intérieures, etc. Et, bien sûr, il a été persécuté, parce que vous êtes toujours persécuté quand vous êtes en contre-courant. Voilà, contre-courant. Donc, il a été muté en Silésie, en nord de l'Allemagne. Enfin, non, Silésie, ouais, c'était à l'époque Pologne. Et là, il a trouvé refuge auprès d'un comte, ça s'appelle comte de Zinzendorf, hein, dans la noblesse, qui avait d'énormes terres, qui allaient jusqu'au nord de l'Allemagne, et qui a donné son cœur au Seigneur, s'est converti. Parce que chez les luthériens, vous avez besoin de vous convertir. Si vous croyez la formule que Jésus-Christ est mort pour vous, etc., vous êtes chrétien. Vous voyez ? Donc le baptême aussi vous fait entrer dans ces choses-là. Tout est un peu lié à cette croyance. Et donc le comte de Zinzendorf se convertit, fait une expérience de cœur avec le Seigneur, et dit, mais écoute, moi, je te protège, et tu as tout. Et ça a donné lieu au mouvement morave. Le mouvement morave, c'est des hommes qui ont prié pendant 100 ans, nuit et jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et de ce mouvement morave, qui s'appelle les piétistes, la piété, où voilà, ils priaient, en principe... Nous, on ne le fait pas encore. Hein. Dans la maison de prière, ça viendra. Et prier. Et c'est là qu'il y a eu le plus grand mouvement missionnaire. Parce que les luthériens et calvinistes, comme ils étaient brainy, hein, ils disaient, bah, de toute façon, il y a ceux qui sont élus. Bah, ils sont élus, donc ils sont sauvés, prédestinés. Et l'autre qui ne sont pas élus, donc il n'y a pas besoin de leur annoncer l'évangile. De toute façon, ils seront sauvés dans tous les cas, puisque Dieu a décidé de les sauver. Mais ceux qui n'ont pas besoin d'être sauvés, bah, il n'y a pas besoin de leur dire, puisqu'ils sont perdus. Vous voyez, donc, à nouveau le dualisme. Non, mais on rigole, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et là, les mouvements moraves ont dit, mais non, ce que nous, on a découvert, cette joie extraordinaire d'être avec le Seigneur, voilà, on va le partager dans le monde entier. Et c'est là que ça donnait les missions. C'est eux qui ont commencé les missions, les plus grandes missions ont démarré avec les moraves. Et John Wesley, au XVIIIe siècle, il a rencontré dans le bateau qui le menait des Amériques en Angleterre, des Moraves. Et en pleine tempête, lui qui était pasteur et prêtre anglican, eh bien, il avait la trouille de sa vie, et il dit, voilà, on va mourir. Eh bien, ce petit groupe de piétistes priait, chantait les louanges du Seigneur et tout ça, dans une paix extraordinaire. Et là, ça l'a touché. Il dit, là, quelque chose que je n'ai pas. Et donc, il est allé dans une réunion, arrivé à Londres, et ils ont lu le passage de Romains que Luther a eu, et son cœur était touché, et il s'est converti. En tant que prêtre anglican, il s'est converti au Seigneur. Et ensuite, après, il est allé en Allemagne voir les piétistes. Etc. Mais du coup, après, il s'est retiré du piétisme. Et je vous explique pourquoi. Parce que le problème du piétisme, c'est qu'ils ont reproduit la même chose dans l'autre sens, puisque c'est dialectique. Ici, c'est le salut extérieur de Jésus-Christ il y a 2000 ans, et là, c'est le salut intérieur. Donc là, c'est la sanctification. Donc on agit sur la sanctification, le perfectionnement du chrétien, d'avoir la présence, de sentir la présence. Si on ne sent pas la présence, Dieu n'est pas là. Et donc on est dans une nouvelle vérité qui est vraie, mais qui exclut la première. Ben, je sens que la trialectique, ça commence à venir. Voilà, tiers inclus. Voilà. Donc vous voyez, dans les dialectiques, on exclut, donc du coup, on reproduit des problèmes ici, qui n'existaient pas là, mais qui sont à l'opposé. Et l'opposé du salut extérieur, c'est le salut intérieur qui conduit à la mystique, qui se trouve dans les religions bouddhisme, taoïsme, religion surtout orientale, qui effectivement parle de des voies intérieures. Donc après, on a des illuminations. Par exemple, Jacob Böhm, je vous en ai parlé, c'est la source des charismatiques, Jacob Böhm, qui d'ailleurs est précédé par Maître Eckhart, qui lui était le pendant de Thomas d'Aquin, exactement vécu à la même chose, du côté catholique, qui lui a adopté cette position, qui sont dans la métaphysique, qui cherchent même dans l'occulte à sentir la présence, sentir Dieu, sentir des choses. Et donc, du coup, on pousse trop loin les choses parce qu'on n'est pas justement équilibré. Parce que c'est un paradoxe. Jésus extérieur, Jésus intérieur, c'est un paradoxe. Ben, la trialectique, ça aide à résoudre les paradoxes. La dialectique, ça les exclut, les paradoxes. Or, la Bible est remplie de paradoxes. Elle est remplie de paradoxes. Jésus dira à ses disciples, celui qui veut me suivre, Matthieu 16, 24, celui qui veut me suivre, il y en a qui veulent suivre Jésus. Eh bien, ils doivent prendre leur croix. Et la croix, ils disent, celui qui trouvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la trouvera. Non, celui qui trouvera sa vie. Pardon ? Oui, il la trouvera, et celui qui veut la perdra. Voilà, c'est un paradoxe. Il faut trouver et perdre. Comment vous résolvez ça ? Dialectique, vous choisissez. Donc les réformateurs ont choisi de perdre leur vie, ici, là, parce que Jésus a dit il faut perdre la vie, il faut prendre la croix, il faut perdre la vie, donc voilà, insistance sur l'austérité, insistance sur... voilà. Et ici c'est trouver, on va trouver la vie, je vais trouver la vie, je vais trouver la vie. Trouver la vie, trouver la présence, trouver le ressenti. Ah, je sens Dieu, je sens machin, bien sûr, c'est bien. Mais si j'insiste là-dessus, et si je ne reviens pas à une foi objective, ça c'est une foi subjective et objective, les deux sont vrais, en même temps. Hello ? Voilà. Ah ben, y a un outil pour vous, c'est justement la trialectique. C'est que ça vous aide à comprendre et à raisonner en prenant en compte les deux réalités. Chez les orthodoxes qui l'ont gardé, cette réalité s'appelle la théosis, divinisation, enfin, l'homme devient divin, sauf que c'est repris par le Nouvel Âge. Donc, vous voyez, mais le Nouvel Âge est toujours aux extrémités pour récupérer ceux qui sont aux extrêmes, les chrétiens. Et il y a des livres, on sait par exemple le livre de Shunan, Paradis, etc., perdu, le paradis est si réel, voilà, ça fait partie de cette mystique. On va chercher tellement la présence de Dieu qu'on oublie que la parole de Dieu nous rappelle la réalité extérieure de la foi. Et du coup, on la trafique pour qu'elle rentre dans ce que je ressens, et on est perdu, on ne peut plus en sortir, on ne peut pas en sortir. Voilà, donc. Je vous invite à considérer cette réalité comme étant double de nature et de consistance. Jacob Böhm, donc un prêtre catholique, qui a eu des visions, des illuminations, des choses comme ça, et a donné naissance effectivement dans le protestantisme, il était luthérien, pardon, Donc il a donné naissance au mouvement, disons, mystique hein, dans le protestantisme, contrairement à Luther et Calvin qui ont donné naissance au mouvement objectif de la foi. Par contre, John Milton et John Bunyan, que je vous ai cités, qui sont aussi des lectures que je vous recommande, dans le même siècle, eh bien, ils ont vécu. Ils ont vécu les deux en même temps. John Milton, d'origine noblesse, a complètement transformé la langue anglaise. C'est le génie de la langue anglaise. C'est-à-dire qu'il a marqué la langue anglaise de sa poésie, des nouveaux mots qu'il a rajoutés, etc. Il s'est battu à l'époque contre ceux qui persécutaient les Vaudois. Vous savez, les Vaudois, ce sont des chrétiens qui ont, voilà, avec Pierre Valdo, qui à Lyon a commencé pour travailler pour les pauvres dans les années 11e siècle, eh bien, il a donné naissance aux Vaudois, qui étaient des vrais chrétiens évangéliques. Et ils ont été persécutés en Italie, et il a pris leur défense. Donc c'était quelqu'un qui était engagé, vous voyez, n'était pas dans sa mystique, sur une chaise, en train de chercher la présence soi-disant de Dieu, comme Jacob Böhm. Donc il a fait quelque chose pour le royaume de Dieu. John Bunyan, qui était un ferblantier, chaudronnier, lui, il a partagé sa foi en écrivant Le Voyage du Pèlerin. C'est un livre merveilleux qui explique sa propre foi, son propre cheminement en tant que chrétien, et qui explique ce cheminement absolument extraordinaire, et qui est justement cet équilibre entre l'acceptation de Jésus et tous les combats qu'il mène dans sa vie pour amener sa foi à maturité. Donc dans le même siècle, on peut vivre les deux, voyez-vous. Quand on suit toujours cette capacité à accepter des choses contraires, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est une sagesse qui vient de Dieu qui n'est pas accessible à la sagesse humaine. La sagesse humaine, elle est naturellement dialectique, naturellement, parce qu'à cause du péché, noir, blanc, bon, mauvais. Vous voyez, c'est cette éthique, cette morale qui est à la base de la division dans le monde, chez les humains. Et ceux qui peuvent accéder, effectivement, et malheureusement, nous, en tant que chrétiens, nous sommes inspirés, nous sommes influencés par l'esprit du monde. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 que nous devons être renouvelés dans notre intelligence, dans notre pensée, dans notre, voilà, donc dans notre paradigme, c'est un mot grec qui veut dire un modèle de pensée. Donc, si nous sommes dans un modèle de pensée dualiste, modèle de pensée qui exclut, ah non, c'est pas possible, voilà, logique. Bien sûr, c'est logique. C'est pour ça qu'Aristote a eu tellement de succès, qu'aujourd'hui encore, voilà, toute notre société occidentale est basée sur le dualisme, eh bien, c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ça nous emmène dans le mur. Est-ce que nous voulons aller dans le mur? Nous voulons vivre une vie constructive, une vie qui soit à la gloire de Dieu. Une vie qui intègre toutes les races, toutes les nations, etc. L'Église, c'est ça. Okay. Mais pour ça, il faut penser comme Dieu pense dans la Trinité, qui sont trois. Ils ne sont pas deux, ils sont trois. Alors, voilà. Donc si on a cette pensée-là, eh bien nous ne pouvons pas être exclusifs. Dieu n'est pas exclusif, il aime tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tous les hommes soient sauvés. Dieu aime tout le monde, parce qu'il n'est pas exclusif. Il ne dit pas celui-là est mauvais, celui-là est bon. Il dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, ils peuvent être rachetés. Amen. Ça, c'est le message du salut. Et Christ, qui est mort il y a 2000 ans parce que il fallait que la justice de Dieu soit accomplie sur nos péchés, mais aujourd'hui, il vit en moi par l'action du Saint-Esprit. Donc, il y a l'action de Christ, il y a l'action du Saint-Esprit et l'action de Dieu le Père qui prend l'initiative de sauver les hommes. Donc, vous voyez, les trois éléments de la Trinité sont en permanence en action. Et ils n'ont pas fait juste l'action de nous sauver, ils continuent à faire une action en permanence, parce que l'action manifeste la vie. Amen. En ce moment, on a Noam, là, qui est rempli de vie, Joshua aussi. Voilà, la vie, c'est ça, la vie. Okay. Mais Dieu est le Dieu des vivants et pas le Dieu des morts. Amen. Et si nous sommes vivants, eh bien nous pouvons profiter de cette vie que Dieu nous donne. Mais il faut accepter les paradoxes. La croix est un paradoxe. Amen. Mourir à la croix pour sauver des hommes. Rappelez-vous, l'apôtre Paul est allé dans le lieu le plus intellectuel de l'époque, qui était l'Agora. Là, il y a une Agora aussi. L'Agora à Éphèse. Il est allé là-bas. Et là, il y avait tous les sages qui étaient assis là et discutaient, parce qu'ils cherchaient la vérité. La philosophie, ça veut dire rechercher la vérité. Donc, ils cherchaient la vérité. Et Paul, bah, il prêchait à côté, voilà. Et puis, bien sûr, bah, le téléphone arabe, ça marche. Ces sages-là ont entendu que Paul était là. Donc, ils ont voulu le voir. Ils ont dit, Paul, tu viens. Tu viens au milieu de nous. Et voilà, parle-nous. Parle-nous de cette nouvelle sagesse, cette nouvelle philosophie qu'on ne connaît pas. Étonnant, mais voilà, il vient d'arriver, c'est les chrétiens, etc. Et l'apôtre Paul commence à parler de Jésus et de la résurrection. Sauf que, en grec, il parlait en grec, Jésus, je ne sais pas comment il l'appelait, c'est Meshaya, Messie, et la résurrection, ça s'appelle Anastasis. Anastasis. Et Anastasis, c'est féminin. Donc, pour eux, c'était évident qu'ils parlaient d'un homme et d'une femme, c'est un couple, parce que pour les Grecs, il y a toujours un couple de dieux. Il y a Apollon et Minerve, il y a Jupiter et Junon, et voilà, c'est un couple. Parce qu'en fait, les dieux sont la représentation anthropologique de l'homme, c'est-à-dire c'est une projection de l'humain sur la divinité, quoi. C'est ça, la religion grecque, orphique. Et donc ils ont écouté attentivement Paul qui parle de cette nouvelle religion. Et à un moment donné, ils ont disjoncté. Ils ont dit, arrête. Et ils l'ont. Et quand est-ce que c'est arrivé dans le discours de Paul? Quand est-ce que dans le discours de Paul, ils ont compris qu'ils ne comprenaient pas la même chose que ce qu'ils pensaient que Paul disait? Pardon? Voilà. Quand ils ont compris que la résurrection anastasiste dont ils parlaient, ce n'était pas une femme, mais que c'était la résurrection du corps de Jésus. Quand là, ils ont compris, ben, ça ne rentrait pas dans leur modèle de pensée, dans leur paradigme, dans leur façon de concevoir le monde. Pour reconcevoir le monde à l'époque, c'était que le corps, c'était la pire chose, pour les sages hein, grecs, qui pouvait exister pour vous amener à être divin, pour vous amener à la divinisation, pour vous amener à être dans la perfection, pour vous amener dans la sagesse. Okay ? Le corps. C'est vrai que le corps, c'est un problème. Hein ? Bah oui. C'est un problème à tous les niveaux. Là, je pourrais parler pendant une heure sur le corps. Je ne vais pas le faire. Hein ? Qui est un problème. Hein ? Mais Dieu a créé le corps ou il n'a pas créé le corps ? Donc il faut le prendre en compte. Les sages grecs disaient il faut l'évacuer, parce que comme c'est un problème, il faut l'évacuer. Donc l'idée qu'ils avaient, c'est qu'il faut sortir du corps, donc ça justifie voilà, tout ce que vous pouvez trouver dans l'occulte, hein, ça contribue, voilà, c'est justifié par ça. Il faut sortir du corps, et ensuite après vous participez à l'union au divin. Et les sages, pour expliquer ça, je l'ai fait une fois ici, mais j'ai pris, vous savez, les verres en pyrex, les verres ronds là que vous avez dans les cantines, quand ils explosent, ils partent en mille morceaux. Ça, c'est super pour expliquer leur vision du monde. Vous prenez un verre, vous mettez de l'eau dedans, et puis à la mort, ou si vous précipitez votre mort par le suicide, eh bien, vous devenez Dieu parce que, hop, le verre, il tombe, et l'eau va rassembler avec tout l'eau de l'océan, puisque c'est la sagesse divine, et votre corps est explosé en mille morceaux, et là vous êtes divin, vous participez au grand divin. D'ailleurs, Dalai Lama s'appelle océan de sagesse. Traduction littérale. Et donc voilà la conception. Quand vous avez une conception comme ça, vous ne pouvez pas accepter le message de l'évangile puisqu'il ne colle pas. Vous voyez ? C'est évident. Mais nous, c'est pareil. Si nous ne sortons pas de la dialectique, qui est un héritage occidental, c'est pas le cas en Orient, mais occidental, eh bien, nous sommes amputés dans notre compréhension de l'évangile, et dans notre transmission de l'évangile, et dans notre façon de vivre l'évangile, et dans notre façon de vivre en église, dans notre façon de faire les projets, dans notre façon de faire. Et je peux vous donner des exemples à profusion. Là, je pourrais continuer à prêcher pendant l'éternité, parce que c'est une réalité. La Trinité existe, Père, Fils, Saint-Esprit, et elle fonctionne. Et elle nous donne le modèle de fonctionnement de l'être vivant, le tétramorphe. L'être vivant. Et c'est pour ça que Wesley est tombé sur un tétramorphe qui est le quadriatère wesleyen, qui est quatre éléments, qui renvoie au tétramorphe d'Ézéchiel. Vous voyez, ça va très très loin dans la révélation que Dieu nous donne des choses. Mais c'est des choses cachées. Et il faut les chercher. Et un jour, Ruben m'a dit, mais t'es pas allé assez loin. Avec Christian Schwarz, alors là, c'est un autre livre que je recommande, s'appelle « La nouvelle expérience de Dieu ». Et c'est vrai que quand j'ai continué sur son recommandation en croisée, j'ai vu que tout était là, tout était là. Et jusqu'à Thomas d'Aquin et donc son homologue, qui s'appelle Maître Eckhart, et jusqu'au réformateur, Bégis protestant, qui a fait la même chose. Luther d'un côté et Jacob Böhm, mystique et l'autre, ben, on est dans le dualisme. Et on reproduit, parce que c'est un modèle, on ne peut pas en sortir si on ne renonce pas à ce modèle. C'est tout. Mais vous savez, renoncer à des modèles, c'est très difficile. J'ai fait deux universités d'été là-dessus, et celui qui en parlait, il disait, ça peut même arriver au suicide. Parce que penser d'une certaine manière, et vous dire que vous pensez mal, et que tout votre être, toute votre vie est basée là-dessus, vous dites, ben, je ne sers plus à rien, je ne comprends plus. Oui. Donc il vaut mieux. C'est pour ça que j'ai pris du temps. Ça fait 20 ans que je parle de ça. Mais je pense que ça commence, disons, le patinage de l'embrayage commence à prendre moins, commence à prendre forme. Je dois transmettre ça. Et je ne suis pas le seul. J'étais encouragé par tout un tas de gens, dont Wesley, mais tous les autres. Milton Bunyan, c'est pareil, ils étaient dans cette compréhension que les deux étaient possibles. On peut être ancré dans le royaume de Dieu, ça s'appelle les ambassadeurs, sur la terre, être des ambassadeurs, sans pour autant perdre notre capacité d'être en union avec Jésus-Christ, d'être mystique, si vous voulez. Mais pas que ça. Donc les deux en même temps. Et du coup, ça forme un équilibre. Alors que ceux qui partent, comme Marlise, ils partent, vous savez, comme les satellites. Moi, j'ai travaillé toute ma vie au Muro, sur les fusées Ariane, partie haute, la dernière, sous la coiffe où il y a les satellites, et les satellites, j'en ai fait aussi beaucoup. Le principe de lancer des satellites, c'est pour ça que c'est assez compliqué, il n'y a que les ordinateurs qui peuvent faire ça, il faut qu'ils calculent la vitesse à quelques dixièmes de millisecondes pour atteindre la vitesse requise, parce que si vous êtes trop rapide, vous partez dans l'espace, vous êtes trop lent, vous retombez dans l'espace, ce qui est de l'attraction. Donc si vous voulez le mettre, par exemple, 36 000 km, hein, c'est, pour les téléphones, c'est 36 000, ça s'appelle une orbite géostationnaire, eh bien, il faut bien calculer son coût. Sinon, vous êtes... pour les chrétiens, c'est pareil. Ceux qui sont mystiques et qui ne s'arrêtent pas, c'est les fusées, et vous êtes c'est parti dans l'infini, galaxie. Non, mais c'est une image, je peux vous dire que c'est exactement ça. Et ceux qui n'ont pas assez de vitesse pour chercher la présence de Dieu, ils retombent sur Terre, et puis ils rebondissent, ils remontent, ils rebondissent, etc. Parce qu'ils sont dans le raisonnement, ils sont dans l'intellect. Ils sont, oui, Christ est mort, oui, je te dis. Et puis, tel verset dit ça. Ça, c'est la scolastique. Hein. La scolastique, depuis tout le Moyen-Âge, c'était basé là-dessus. Tel verset dit ça. Puis, moi, tel verset dit ça. Tel verset dit ça. Tel verset dit ça. Mais c'est biblique, c'est biblique, c'est biblique. Et à force de versets bibliques, on se heurte. Voyez ? Mais quand vous êtes à la bonne orbite, vous êtes l'orbite du Seigneur, bien vous êtes dans la paix, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la sérénité. Alors, bien sûr, l'orbite, de temps en temps, il faut redonner un petit boost, hein, parce que les satellites, ils ont tendance à tomber quand même, parce qu'il pour qu'il continue un peu la vitesse. Donc, hop, de temps en temps, il faut une petite réforme, petite réforme, petite réforme. Il faut, faut maintenir hein, l'orbite. Okay. Voilà. Vous voyez, Dieu m'a donné cette image juste à l'instant. Je n'ai pas prévu de la donner. Mais elle est superbe. Amen. Voilà, on va terminer là-dessus. Pour vous dire que j'espère cette année, eh bien, nous pouvons, eh bien, petit à petit, comprendre la vision. La vision de l'Église, c'est ça. La vision de notre Église, c'est ça. C'est trois pôles, trois invariants, trois éléments qu'on prend en compte, qui est l'appel. Dans une action, hein, dans une action. Quand on agit, on prend l'appel. Dieu m'appelle. Je ne suis pas un être dans des millions de galaxies, etc., perdu dans l'océan galaxique, etc. Non, je suis un être que Dieu aime, sur le plan personnel et sur le plan de l'Église. Dieu est jaloux des uns et des autres qui ont donné leur vie au Seigneur, et jaloux de la communauté qui se réunit à un endroit donné. Et donc, que ce soit collectif ou individuel, il y a un appel. Dieu nous appelle à quelque chose de précis. Et plus c'est précis, plus eh bien, ça nous aide à donner l'orientation et ne pas nous disperser. La deuxième chose, c'est qu'on a une mission. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est une mission. Jésus a donné soin à ses disciples, à les mandater. Il dit, vous irez dans le monde entier prêcher l'Évangile et d'obéir à mes commandements. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Donc ça, c'est le deuxième pôle. On ne peut pas... Et c'est un autre pôle, l'appel mission. Et puis le troisième pôle, c'est de devenir ce pourquoi Dieu nous a fait. Et Dieu nous fait entrer dans notre devenir. Le futur, ce n'est pas « Ah, wishful thinking, ah, j'ai envie que toute auberge en ville soit sauvée. » Pourquoi pas? Mais ça ne va rien vous donner. Parce que si dans 10 ans, auberge en ville n'est pas sauvée, ils vont dire « Le pasteur, il s'est planté, il a donné une fausse prophétie. » Parce que ça dépend d'un tas de choses, qu'Auberge en ville soit sauvée. Ça dépend, je ne sais pas, c'est très complexe. C'est très très complexe. Ça dépend de l'action de Dieu, de son esprit. S'il décide de le faire, bien sûr, mais moi je ne le sais pas. Je ne suis pas à côté du trône de Dieu pour savoir ce qui a décidé Auberge en ville. Mais ça dépend aussi de notre fidélité dans le témoignage. Ça dépend de la maison de prière, la manière dont nous allons prier. Il y a énormément d'ingrédients. Mais si tout cela, nous essayons de faire du mieux pour rentrer dans l'appel, eh bien, les résultats seront là. Les résultats seront là. Parce que c'est Dieu qui accomplit en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant, selon son beau plaisir, Ephésiens 2.12. Voyez-vous, quand nous sommes dans ces trois pôles, nous ne sommes plus dialectiques. Nous comptons sur la puissance et l'action de Dieu. Amen. Nous sommes appuyés sur son appel, sur sa mission et sur le fait que par son Saint-Esprit, il va agir dans le devenir. Amen. Et donc, continuons à vivre ensemble. Et ne critiquons pas les uns, ne critiquons pas les autres, ne cherchons pas des poux à droite ou des poux à gauche, ou les charismatiques ou les non-charismatiques. Travaillons ensemble pour le même but. Mais si notre pensée n'est pas formatée dans ce sens-là, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Refaites les universités d'été que j'ai fait. J'en ferai peut-être d'autres. Cette année, je n'ai pas eu à cœur de le faire. Ce que je voulais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne prenait pas. Vous voyez, le moteur tournait, mais il n'entraînait pas. Donc, si le moteur entraîne, on pourra aller plus loin. Amen. Sinon, on fera comme l'histoire. Vous voyez, se répète. 16e siècle, intellectuel. 17e siècle, union mystique. Après, nouveau intellect, mystique, union intellect, mystique. C'est toujours dialectique. L'histoire est dialectique. Hegel l'a expliqué. Thèse, antithèse, synthèse. Parce que c'est une observation que les historiens ont fait. Et aujourd'hui, on est dans une spiritualité nouvel âge mystique. Les gens cherchent une quête de sens. Eh bien, on est à nouveau en contresens. Mais les deux sont vrais, mes chers amis. Christ est venu il y a 2000 ans pour toi et moi. Mais Christ est en toi, parce que tu l'as accepté comme sauveur personnel. Amen. Alors vivons ces deux réalités et que le Seigneur nous aide. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, qui est totale, qui est extraordinaire. Et nous voulons recevoir cette grâce dans nos vies et aussi dans nos pensées. et que tu puisses transformer nos pensées afin qu'elles puissent être conformes à la tienne, Seigneur, et que ce qui se passe dans le ciel puisse se passer sur la terre, comme nous l'avons prié, Seigneur, parce que nous pensons comme toi et nous n'entravons pas, Seigneur, ta manière de penser. Alors merci pour ton aide, pour ce temps de vacances encore, que nous puissions faire les bonnes lectures qui nous aident à changer notre pensée et à l'aligner, Seigneur, sur ta parole. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.